Alors, bonjour. Je suis Martin Fauché. Je suis conseiller artistique au Festival Transamérique. Et j'ai le grand plaisir d'animer cette rencontre, table ronde, mais j'aime mieux rencontre, avec Daniel Danis et Marie Brassard. Cette table ronde pour titre « La mémoire intime au théâtre ». Bon, c'est un terme qui vaut ce qui vaut. Quand on imagine des rencontres autour des artistes du festival, Marie-Hélène, Karine Deneau et moi, on est un peu, c'est un peu intuitif parce qu'on connaît certains spectacles et d'autres spectacles qui sont en chantier, donc on les connaît pas vraiment. Donc c'est plus l'intuition qui nous guide un peu dans nos thèmes, dans nos titres. Et j'avais comme l'impression que et Daniel et Marie proposent des univers qui sont très, très intimes. Et ça me tentait d'aborder cette thématique-là, cette question-là, autour et de leurs spectacles qui sont présentés au festival et autour de l'ensemble des spectacles ou des écritures qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Donc, je vous présente donc Marie Brassard, comédienne de formation, qui a joué et écrit auprès de Robert Lepage et les équipes qui ont réuni pendant une quinzaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, Marie écrit ses propres spectacles, joue dans ses propres spectacles. Donc des spectacles qui ont pour titre Jimmy, créature de rêve, La noirceur, Peep Show, L'invisible. Et jusqu'à hier soir, ici à Montréal, elle nous a présenté Moi qui me parle à moi-même dans le futur. À ma droite, j'ai donc Daniel Danis, qui a fait un bac à Chicoutimi au programme interdisciplinaire en art. C'est-tu exactement le bon titre, non?
Oui, mais je ne l'ai pas complété.
Il n'est pas complété. Mais tu fais ta maîtrise présentement.
Oui, après, j'ai passé à la maîtrise.
À la même université, oui. À Chicoutimi.
J'ai passé à Chicoutimi.
Et Daniel donc est un écrivain de théâtre très très prolifique, très singulier aussi, qui a réécrit selon moi une langue québécoise absolument magnifique, des chocs d'images, des chocs d'idées qui forme pour moi une cosmogonie québécoise assez étonnante. Donc, des textes comme celle-là, « Cendre de cailloux »,« Le chant du dire-dire »,« Le langue à langue des chiens de roche »,« roman dit », des spectacles aussi pour enfants ou adolescents, « Le pont de pierre et la peau d'image »,« Kiwi »,« Terre-océane », je ne sais pas trop comment qualifier la trilogie des flous. On verra.
C'est singulier.
Oui, on verra. Donc, Daniel dirige maintenant sa compagnie aussi, comme Marie, avec Infrarouge. Daniel Danis, donc sa compagnie, qui donc présente ici à Montréal depuis hier, qui présente le spectacle. Voyons, je l'ai vu. Mélanonyme. Donc, la mémoire intime au théâtre, dans les deux spectacles, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme vraiment une part très, très intime qui remonte à soit l'enfance ou, dans les deux cas, chez Marie, ça se passe à Trois-Rivières. Chez Daniel, il y a quelque chose qui est associé à Rouyn-Noranda, donc des petites villes, des lieux très précis. L'intimité, la mémoire, est-ce que vous considérez que c'est le moteur fondamental de votre écriture, de votre œuvre, de ce que vous faites scéniquement parlant?
Oui, je dirais, dans mon cas, je dirais surtout plus peut-être l'intimité que la mémoire, bien qu'on est qui on est, on ne peut pas s'échapper à soi-même, mais le simple... Peut-être même l'acte de créer, peut-être comme on le fait, même si on le fait un peu différemment. Mais dans mon cas, comme je mon véhicule, si je puis dire, c'est moi-même. Et donc, inévitablement, comme ça me passe à travers le corps, même mon écriture, très souvent, j'écris d'abord les premières ébauches de mes spectacles en parlant. Et en enregistrant ce que je dis avec de la musique et tout ça, alors bien évidemment, c'est comme c'est filtré à travers moi ou par mon corps, ben il y a cette impression ou cette relation intime avec mon propre travail, avec ce que je fais, ce que je donne. Ouais.
Daniel.
Ouais, j'ai été étonné au départ de voir que les matériaux mémoire avaient des incidences dans le corps vraiment profondément pour arriver à saisir le réel. La mémoire, c'est comme ces trois fragments qui m'habitent profondément entre le rêve, la mémoire étant le revoir et le réel, comme si toutes ces trois zones-là étaient ensemble, et qu'à chaque fois que j'interroge par l'écriture le corps ou mes corps ou tous les corps qui me traversent, sont toujours effectivement présents. Au début, j'étais un peu gêné de ça parce que j'avais l'impression de me raconter.
Au début, tu parles des premières pièces que
oui,
tu écrivais.
Oui, les
comme
premières
celle-là,
pièces. Oui.
Cendre.
J'avais l'impression que ça me racontait, que ça me racontait trop, mais finalement non. Au bout du compte, ça devient des objets qui se distancient de nous et qui, en fait, c'est comme de prendre assise à l'intérieur de soi, mais pour parler en fait du reste du monde. En fait, c'est comme la seule manière de vivre l'existence, c'est de passer par son corps, parce que c'est le seul véhicule qu'on a pour transiter sur cette terre, et que, à quelque part, ça a aussi des interconnexions avec tous les autres. Quand je me suis rendu compte que ça interpellait les autres, que c'était pas simplement une espèce de symphonie intérieure, presque schizophrénique peut-être, que ça dépassait cette schizophrénie et que ça allait vers l'autre, et tout d'un coup il y avait vraiment ce désir d'aller vers l'autre, non pas se raconter soi. Mais oui, la mémoire est au cœur de se revoir, toujours revoir, refaire, recomposer, comme dans une recherche de calme ou de réconcilier les origines les plus lointaines.
Parce que dans les deux cas, vous racontez pas des histoires linéaires. Je pense que vous racontez des sensations où vous essayez de transmettre ou de concrétiser scéniquement des sensations, des abstractions, des choses qui voyagent à l'intérieur de nous. Et donc, effectivement, je pense que les corps dans vos deux spectacles sont hyper présents et en même temps hyper absents.
Oui, c'est drôle. J'avais une conversation hier avec quelqu'un, puis elle me disait, quand tu sur scène, spécialement dans ce spectacle-là, tu bouges, tu es presque immobile, mais tu t'exprimes beaucoup avec tes mains. Je pense que c'est une caractéristique aussi de moi-même dans la vie. Mais en réfléchissant après, je me suis dit, oui, c'est comme quelque chose, spécialement dans ce spectacle-là, où je me sens extrêmement ancrée. Et très très grandée, comme on dit, mais en racontant cette histoire, c'est comme si avec mes mains je dessinais quelque chose dans l'espace à l'extérieur de moi, comme si je traçais quelque chose que je ne veux pas illustrer, dont je ne veux pas imposer l'image, mais juste en la, comme si l'image qui m'est venue quand elle m'a parlé de ça, vous connaissez peut-être la photographie de longue exposition de Picasso qui dessine un minotaure dans l'espace avec la lumière, et donc quelque chose qui n'existe pas juste par le tracé. Le théâtre que je fais, c'est un peu ça aussi. Tu parles d'impression, de choses comme ça, c'est comme si j'essaie de donner une forme à l'objet d'art que ça devient, la réalité filtrée à travers moi, et que comme cette forme-là n'existe pas et que je l'invente et que je la vois, mais j'essaye de la dessiner dans l'invisible, si on veut, pour que ce tracé-là trouve un écho dans l'esprit des gens qui me regardent, donc pour que eux puissent faire leur propre dessin de cette proposition que je fais.
Je t'écoutais.
Avez-vous l'impression des fois que, parce que vous faites du théâtre de toute évidence, et en même temps, vous avez un désir d'écrire quelque chose d'actuellement actuel et contemporain qui reproduit pas bêtement des codes du théâtre qui existent depuis longtemps. Donc, c'est pas une pièce que tu dis, bon, la pièce est écrite, maintenant on met un décor là-dessus, on met des costumes là-dessus, on va le diriger. Quand vous imaginez vos spectacles, avez-vous des fois l'impression que les mots sont tout à fait inadéquats à traduire ce qui vous habite, ce qui vous préoccupe, ce qui vous hante, ce qui vous enchante, enfin,
oui.
Qui vous trahissent, ou que ce n'est pas suffisant, ou que ce n'est pas un bon matériau pour traduire ce qui... Et en même temps, vous utilisez des mots aussi.
Ouais. C'est étrange parce que chaque fois que... par exemple, dans Mille Anonymes, je ne regarde jamais mon texte. Je regarde jamais à quel endroit on est sur le texte. Je regarde ce qu'on est en train de fabriquer, ce qui en ressort.
En répétition,
en répétition. Je regarde jamais, jamais le texte. Et je sais même pas ce que les acteurs disent ou ne disent pas. Je relance jamais sur un détail. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui émerge de tout ça. Et surtout, peut-être sur la question de l'absence et présence du corps, c'est comme... Dans mes autres pièces, j'avais aussi cette préoccupation de me dire que le temps est en dehors. Le temps est, comme par exemple dans celle-là, il y avait trois temps. Il y avait le présent, le passé et un certain futur. Mais les trois acteurs, les trois protagonistes ne se regardaient pas, mais vivaient dans le même espace. Après, dans Centre de Cailloux, j'ai commencé à me dire, OK, c'est des acteurs qui sont après le drame, donc ils ne sont pas obligés de jouer le drame, ils sont ailleurs, il y en a même un peut-être qui est mort. Dans le champ du dire-dire, ils sont dans l'au-delà, dans une espèce dont on ne sait pas s'ils sont vieux ou enfants, on ne sait plus à quel endroit ça se situe. Le corps de l'acteur doit être disponible à disparaître à l'intérieur du corps de la langue. C'est comme si à l'intérieur du texte, je cherchais à nommer cette expérience étrange dans ma jeunesse où je me suis réfugié C'est une porte de sortie, en fait, parce que le réel était trop dur. Et c'est ce que j'ai analysé dans mon cheminement dans l'écriture. C'est une porte de sortie où le rêve est devenu plus important et aussi réel que le réel est présent. Et donc, je fais aucune distinction. Même encore aujourd'hui, je ne fais aucune distinction entre ce que j'aurai comme image là et ce que je vais vivre en rêve ce soir. Je ne fais aucune distinction. Et même quand j'essaie de revoir des images du réel qui existent pour de vrai pour moi, ça reste toujours illusoire, ça reste toujours quelque chose à attraper. Et donc, si je l'ai tenté dans l'écriture de donner un corps à cette mobilité de nos corps, à cette décorporalisation, de cette corporalisation, dans l'écriture, ben j'essaie de le faire aussi sur la scène. Et ce qui est très difficile, c'est d'expliquer ça aux acteurs. Mais c'est vrai, c'est un vrai défi. Ça, c'est une autre page de travail pour se dire, écoutez, vous êtes des vrais corps. Quand vous êtes habillés et que vous avez à dire ces mots-là, ça suffit, vous n'avez pas à le jouer vraiment. Mais je laisse les acteurs jouer parce que, en même temps, je ne veux pas avoir d'autorité sur l'acteur. Et c'est une position qui est importante de ne pas avoir le contrôle sur l'autre. C'est juste de dire, on est dans une zone de jeu. Dans cette zone-là va paraître quelque chose. Et c'est vraiment, si on parle de la mémoire intime, c'est vraiment ce cœur-là où un jour j'ai diffractionné le corps et qu'on est passé dans d'autres modes d'expérience intérieure qui m'a amené à faire des hallucinations, sans drogue, et qui m'a amené à être dans une autre imagerie intérieure.
C'est beau cette image de... J'ai un peu la même impression, bien que cette impression que j'ai souvent de la frontière entre les rêves et la réalité est très poreuse en ce qui me concerne aussi. C'est que je navigue bien dans toutes les ce qui fait peut-être que pas qu'on ait des êtres étranges nécessairement, là, mais mon rapport avec la réalité est assez particulier déjà dans la vie, je fais rire déjà. Mais c'est vrai, j'ai une sorte de on parle des mots, par exemple. Vous disiez, toi, Daniel, tu es écrivain. Moi, je ne me considère pas réellement comme une écrivain. Bien que plus j'avance dans mon travail, plus l'écriture et les mots, ça devient important. Quand j'étais enfant, je lisais énormément. C'était à peu près ma seule activité, peut-être jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Je lisais tout le temps. Donc, ce rapport avec le langage écrit, il était très, très fort pour moi. C'était comme une sorte de... tous ces mots qui soit racontaient des histoires ou exposaient des concepts pour moi dans les livres, c'était vraiment un outil qui a ouvert les portes de mon imagination. La littérature, je pense que ça a été ça et l'art visuel, les premières choses. Et c'est certain, après, quand je me suis mise à faire du théâtre, j'ai aussi adhéré à d'autres pas des écoles de pensée, là, mais j'ai eu comme le désir aussi de participer à des explorations d'un théâtre plus physique, quoi, un théâtre plus visuel aussi. C'est peut-être pour ça que, aussi dans mon travail, c'est très important. Le langage devient de plus en plus important parce que j'ai de plus en plus de plaisir. Je retrouve le plaisir d'écrire que j'avais perdu. Et je pense que ça va aller en augmentant avec le temps. J'ai de plus en plus envie d'écrire. Et je vais commencer aussi à publier mes textes et à faire des choses que j'ai pas encore réellement fait jusqu'à maintenant. Mais il y a toujours, je trouve que le langage en dehors de tout, j'ai pas l'impression que ça existe vraiment. Les mots en dehors de tout, ça existe pas, parce que même quand je vivais l'expérience de la lecture, même si c'était une relation intime entre moi et l'écrivain. Dans un autre temps, dans un autre, j'étais quand même moi-même physiquement dans un contexte. J'étais dehors, je sentais le vent, ou j'étais assise ou n'importe quoi, où il y avait du bruit autour de moi ou de la musique. Ou alors tout ce que mon entourage, mon environnement participait à l'élaboration du paysage qui se déployait dans mon esprit pendant que je lisais. Et donc, je dis parfois aujourd'hui, les gens, il y a cette expression très populaire, qui est l'art multimédia. On parle de l'art multimédia comme si c'était une chose qui était nouvelle. Et moi, ça me fait toujours un peu sourire parce que l'art multimédia existe depuis toujours. Je me souviens en Suède d'avoir visité le très, très vieux théâtre. Là, je pense à Drottningholm. Bon, c'est un très vieux théâtre là, où on nous montrait, ils ont tout conservé, les herses en bois comme ça, et puis les rampes avec les chandelles. On nous montrait comment ils allumaient, ils éclairaient le théâtre. Ils faisaient comme des agencements avec des bougies, c'est magnifique. Mais déjà à l'époque, c'était déjà un art multimédia. Il y avait des mécaniciens, il y avait des menuisiers, il y avait des éclairagistes, des écrivains, des peintres qui faisaient des peintures scéniques, des tableaux, tout ça. Alors pour moi, ça a toujours été un art multimédia. Alors je dirais que même si, en ce qui me concerne le langage, les mots sont importants, ils sont jamais, ils se suffisent jamais à eux-mêmes. Et dans mon travail, une chose, je pense que la chose après le langage qui est importante, surtout dans mon travail, c'est la musique ou le son. Et je trouve que ça, c'est une belle continuité du langage parlé, en fait. C'est le son aussi, mais c'est le son sans le sens précis, c'est le son ouvert, en fait. C'est pas le son organisé comme peut l'être le langage. Et j'aime cette cette liberté que ça nous donne d'interpréter le sens, parce que c'est comme un langage universel. C'est comme une sorte d'espéranto, la musique, le son. Et pour moi, ça participe du langage écrit, de la langue, des mots.
Moi, j'allais ajouter que dans l'écriture, c'est par inadvertance ou par accident de vie que je me suis mis à écrire sur la plus petite page qui était le plus petit théâtre du monde, parce que j'avais plus de travail et que personne ne voulait travailler avec moi. Je les comprends. Mais quand je me suis mis à écrire, en fait, les mots, alors que moi, j'ai à peu près jamais lu, peut-être par paresse, mais surtout, entre autres, parce que je suis très dyslexique. Alors, lire une page, pour moi, à la fin de la page, je ne savais pas ce qu'on avait dit en haut. Donc, c'était physiquement et mentalement difficile à lire. Donc, j'ai très, très peu lu. Mais quand, donc, je me suis attablé pour écrire, c'est à chaque fois que les mots évoquaient des choses très viscérales, très réelles. Si j'utilise le mot pierre, je vois pas le mot pierre, je sens la pierre. Si je parle d'un ruisseau, c'est tout de suite. Et pour ça, par exemple, entre autres, j'ai quitté. À un moment donné, j'ai commencé à écrire du théâtre. Je savais pas du tout. Au début, j'écrivais un peu comme à Sam Shepard et compagnie, les Américains, ce que j'avais un peu lu et pratiqué au conservatoire. Et je savais pas ce que ça mangeait sur la scène quand il y avait une porte à gauche puis un escalier qui montait. La scène ne me disait rien. Le jour où j'ai fait violence à cette scène et je me suis dit, je me retourne et je m'en vais ailleurs et je vois autre chose, là, j'étais libéré du théâtre en l'impliquant dans un autre réseau d'images, c'est-à-dire libéré, donc comme si j'avais un œil caméra qui travaillait et qui pouvait faire dire n'importe quoi. Et là, tout d'un coup, la liberté était présente. C'était formel au niveau de l'œil, mais c'est tout, à chaque fois quand les gens me parlent de ma langue poétique et tout, je peux pas le savoir autrement que par les effets viscéral que ça me donne. C'est des images. Si je vois pas, si j'entends pas, si je ressens pas, je peux pas écrire. Et c'est pour ça que ça me prend aussi beaucoup de temps avant d'écrire. Il faut que je vois. Et si je vois pas, c'est horrible. Et là, je cherche. Et là, je peux angoisser énormément. Mais avant, quand je vois, après, c'est clair. C'est comme quand on voit dans la vie.
C'est comme tu vois, puis tu le décris.
Oui, c'est ça. C'est clair. C'est de l'eau de roche. Oui. Ah,
Justement, qu'est-ce qui vous donne la réponse que c'est ça que vous cherchez? C'est-à-dire, tu dis, parce que tous les deux, vous travaillez avec un imaginaire très libre. Vous essayez de concrétiser le temps, le présent, le passé, le futur, l'abstraction, les choses irréelles et hallucinées. Organiser un rêve, scéniquement parlant, ça ne doit pas être évident. Et qu'est-ce qui vous dit, oui, c'est ça que je cherche? Oui, c'est cette musique-là qui doit arriver à tel moment, ou on passe à une section suivante, ou tu rentres, ou tu sors, ou tu bouges plus. Qu'est-ce qui vous donne, pas la permission, mais le OK pour dire c'est ça? Là, c'est ça.
Je sais pas, moi, des fois, c'est quelque chose que je le ressens physiquement. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le rythme. Et c'est comme s'il y avait toutes sortes de pièces qui ne s'emboîtent pas. Et quand ça ne s'emboîte pas, c'est comme un casse-tête, en fait. On sent que ça ne fait pas le petit clic confortable qui fait que la chose se trouve à la bonne place. Je pense que c'est un peu quand on écrit aussi. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les gens qui écrivent ou quand on joue, quand on invente quelque chose, il y a une musique aussi, il y a un rythme qui fait... je pense qu'on sent, même quand on écrivait, on sent quand on écrit une phrase, ça fait ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da. On fait la musique de la phrase qui n'a même pas à voir avec le sens, mais on sait quand la musique fonctionne. C'est pas nécessairement un système qui existe ou qui nous est imposé. Ça correspond, j'imagine, à une sorte de rythme intérieur où c'est très instinctuel ou instinctif, cette sensation tout à coup que tout fait comme ça, mais c'est vraiment, en ce qui me concerne, c'est quelque chose que je ressens physiquement. Et si je sens que c'est pas la bonne chose, ce qui arrive souvent, parce que parfois on cherche des solutions très longtemps, c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est une grande liberté quand on est créateur de pouvoir continuer. Contrairement à un contexte de théâtre plus conventionnel, souvent on est condamné à vivre avec les erreurs ou les choses qui nous déplaisent, et on a comme un moindre mal, puis on se sent condamné à vivre avec ça jusqu'à la fin, la destruction de notre travail. Dans notre cas, on a la permission de vivre inconfortablement pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve une solution ou quelque chose qui va tout à coup nous amener à faire un déclic et à solutionner ce qu'on trouvait comme une sorte de problème. Donc, l'inconfort, il peut demeurer longtemps aussi parce que moi, j'aime pas imposer une solution. Parfois, il y a une solution évidente qui nous vient à l'esprit. Peut-être que ça a rapport à ce qu'on parlait tantôt, ma relation avec le rêve, puis ma relation avec le réel qui est particulière. Quand les choses sont évidentes, ça me déplaît énormément. Je fais tout le temps, non, c'est trop évident. Et j'essaie toujours de trouver le rythme compliqué qui va me satisfaire. C'est probablement... très personnel à chacun, cette sensation-là qu'on a de « Ah, là, c'est ça que je cherchais. » Et souvent, étrangement, même si probablement ça correspond à un rythme intérieur, quelque chose qui nous est personnel, si on est, par exemple, accompagné, souvent, il y a d'autres personnes dans notre présence, quand on travaille, souvent, on a l'impression que tout le monde le comprend aussi, que c'est la bonne chose.
Oui, mais c'est vrai que tout ton parcours que tu as fait sur la scène comme comédienne, comme aussi auteur avec Robert au début, ce qui est là formidable, l'endroit où tu travailles, c'est tu dépasses. C'est comme si tu avais intégré tellement de choses au niveau de l'art contemporain que tu arrives là en ce moment, pour moi, à dépasser, à trouver de nouvelles zones de jeu et de justement ces fragments-là qui fait que le temps est complètement tordu à l'intérieur et à la fois de ta parole et de ton corps qui ne va pas forcément ensemble, mais que nous, on est obligés de composer, mais c'est presque des riens, en fait, qui existent dans l'espace. J'étais assez fasciné de ton travail sur l'invisible, entre autres, sur la lumière, le son, mais ton jeu particulièrement, où je me disais, bon, là, on est devant un objet nouveau, on est dans des espaces nouveaux, on est dans un espace mental nouveau aussi, puis je me disais, ça ouvre sur... C'est comme si on avait soif aussi de d'autres espaces, parce que comme auteur aussi, je cherche d'autres espaces, me dire, mais où, à quel espace on cherche, vers où on veut aller? Et il faut ouvrir pour chercher d'autres imaginaires de notre art pour le faire évoluer, le faire avancer. Moi, je suis au début de... Je suis en travail, je suis un novice de scène, parce que j'apprends mon métier, en fait, de metteur en scène et d'écriveur scénique, plutôt, parce que... donc, pour moi, c'est toute la notion de de toute cette compréhension de la scène, du mot, de comment moi j'agis à l'intérieur de l'espace dans lequel je travaille. Et je m'aperçois, là, avec Mélanonyme, entre autres, là, je viens de découvrir que je ne dois pas me préparer. C'est-à-dire que je dois préparer énormément le terrain, mais je dois entrer dans ma zone de travail comme si j'entrais dans un rêve. Parce que si je suis traversé d'images, là sur la scène, quand je monte sur la scène avec les acteurs, et là que je vois quelque chose qui me traverse l'esprit, puis je me dis c'est ça qu'on fait, ça devient une évidence énorme. Alors que j'avais, par exemple, naturellement il y a tout un aspect formel que j'essaie d'interroger au niveau de l'art, ça c'est une chose, parce que je suis toujours, moi aussi, à cette recherche de me dire à quel endroit on peut faire avancer, évoluer l'esprit, entre guillemets, du théâtre, et comment je peux y participer et donner une part de mon grain de sel à l'intérieur du rouage théâtral. Mais là, ce que j'ai découvert, c'est un peu ce que Daniel Cordova m'avait dit l'an dernier. Peut-être que l'auteur Daniel doit laisser Danis travailler sur la scène. Et que, à quelque part, je suis peut-être en train de trouver cette zone qui, tout d'un coup, m'amènerait à ne plus utiliser de texte, mais de travailler tout d'un coup et de voir des choses qui, là, j'hallucine le spectacle au moment où je le fais. Mais j'ai un convoqué
Quand tu dis que tu le fais, que tu le répètes ou que tu le performes?
Ben, il y a les deux. C'est-à-dire que la première fois, je suis allé sur la scène, j'avais fait des ateliers en France avec des acteurs, puis je me disais, je dois pas bien comprendre leur stress du jeu, et je dois aller faire des expériences sur la scène, ce que j'avais fait avec la trilogie des flous et Sommeil et Rouge. Et dans le premier cas, j'avais mieux réussi, mais en tout cas, je m'étais placé dans l'idée de ne pas jouer. Comment ça veut dire de ne pas jouer, puis de pas avoir de stress quand on joue? Alors ça, c'est compliqué, mais c'est vraiment, je suis amateur, hein, ce que je vous dis. Mais c'était vraiment d'aller sur la scène pour après être capable de parler aux acteurs. Et comment on dialogue à travers l'objet avec le spectateur? Comment on arrive à créer quelque chose sur la scène pour que le spectateur arrive à saisir quelque chose sans tout lui donner? C'est-à-dire juste effleurer une chose, de l'ouvrir et de pas être autoritaire par rapport à l'imaginaire. Et ça, l'autorité scénique, c'est une chose qui est une question formelle aussi, de pas imposer au spectateur, bien qu'on lui impose l'heure et demie que dure le spectacle, ou on lui impose des images, un rythme, etc., mais de laisser des portes ouvertes pour qu'on ait des entrées de dialogue ensemble, que tout n'est pas fabriqué dans l'objet. Et donc, donc c'est cet apprentissage que je suis en train de faire, et je ne sais pas jusqu'où ça va aller.
C'est très complexe, j'imagine, de travailler. Moi, je travaille pas avec des... Je vais probablement le faire l'an prochain. Là, il y a des projets, mais jusqu'à maintenant, dans mes projets, je travaille pas avec une quantité d'acteurs. Je pense que on entre vraiment dans un autre territoire beaucoup plus complexe. Parce que non seulement tu as quelque chose à transmettre à des gens qui sont dans la salle, mais aussi à des intermédiaires qui vont être les acteurs qui vont porter ce que toi, tu as... Et c'est beaucoup d'étapes, je trouve, hein, mais il y a beaucoup de zones floues aussi là-dedans, parce que tu as des filtres. Là, c'est beaucoup plus complexe, je pense. Moi, c'est certain, je travaille avec d'autres gens, mais c'est des artistes qui travaillent dans d'autres disciplines que la mienne. Donc, ça nous permet d'avoir une sorte d'éventail et puis d'avoir chacun notre, comment je peux dire, notre spécialité. Mais j'amène les artistes qui travaillent avec moi à me proposer quelque chose qui va s'intégrer, mais ça demeure leur œuvre à chacun individuellement, même si ça a été filtré par moi. Tandis que il y a toujours, c'est assez complexe de travailler avec des acteurs, par exemple, parce que tu veux qu'ils soient des artistes aussi, mais en même temps, ils sont le véhicule de ta pensée, de ta parole aussi. Donc, ça complexifie un peu le transfert. Ouais.
Peut-être.
Mais Marie, tu as fait un spectacle avec, j'ai oublié le nom du monsieur Louis de Negin. Toronto,
oui, oui,
donc tu as dirigé quelqu'un.
Une expérience formidable. Oui, mais c'était pas difficile parce que c'était. J'ai fait un spectacle avec un acteur formidable qui s'appelle Louis Negin, qui est un acteur plus âgé, qui a eu une vie vraiment formidable. Le spectacle a été inspiré de sa propre vie et on a créé ensemble une fantaisie à partir de ça. Mais j'avais pas du tout à le diriger, en fait. C'est qu'on a passé plusieurs semaines ensemble à parler, à regarder des films, à se replonger dans toutes les atmosphères des étapes de sa vie, à différentes étapes de sa vie, et ensemble de choisir comme ça des choses qu'on voulait évoquer. Alors moi, j'avais vraiment, franchement, qu'à créer une sorte d'environnement autour de lui qui serait propice à... Ben, remarque, peut-être que si je travaillais avec plusieurs, et je vais le faire bientôt, comme je disais, je travaille avec plusieurs acteurs, ben, là, je pense que je l'envisagerais comme ça, c'est-à-dire d'essayer de créer une sorte de bassin, une sorte d'environnement qui devienne tellement inspirant et évocateur pour les gens qui gravitent dedans que ça devienne complètement facile et comme incontournable pour eux de faire cette chose-là de cette manière-là plutôt que d'une autre. Je pense que j'aurais du mal à peser sur le point précis. Mais j'aurais plus tendance à faire une sorte de stratégiquement déployer une sorte d'environnement, puis tout à coup on met la personne dedans, puis ça se fait tout seul parce que l'environnement il est inspirant.
Parce que quoi, le défi, c'est de faire en sorte que votre univers intime, l'autre le ressente tellement que quand il l'exécute ou quand il... C'est quoi cette relation-là entre le créateur extérieur, autre que toi, que vous, et la chose que tu cherches toi-même au moment présent?
Ouais. C'est comme... la position de départ, et là, c'est là-dessus qu'il faut que je poursuive le travail avec les acteurs, c'est d'abord de leur faire, je crois, bien comprendre, vraiment au début d'un processus, qu'ils sont des artistes et que je les convoque pas comme des acteurs. Je veux pas qu'ils reproduisent quelque chose. Je veux qu'ils cherchent un espace-temps. Je veux qu'ils soient naturellement toute la question du personnage. À chaque fois, les acteurs reviennent souvent me dire qu'est-ce que je joue, et je leur réponds jamais. Et ça met parfois les acteurs un peu en colère parce que j'arrive pas à trouver les mots exacts pour parler à l'acteur. Mais je leur dis, vous êtes dans un environnement, on essaie de trouver quelque chose qui est qui traite de, et là je peux énumérer. Et parfois, à un moment que je les sentais, par exemple dans Mille Anonymes, un peu largué, je suis retourné dans mon enfance en leur expliquant exactement là où j'ai puisé ma source autour de Mille Anonymes, qui était la ville minière dans laquelle j'ai vécu à Rouyn-Noranda, et qui remontait dans mes fibres comme jeune garçon, et la manière de voir les choses, et comment, par exemple, le soulier et le pied a une importance capitale dans mon travail, que je vais poursuivre encore là-dessus, parce que ça ouvre des portes où la maison est le soulier est une maison dans laquelle on place notre corps, et cette maison, elle est mobile. Et en fait, je m'aperçois qu'avec l'acteur, il faut que je les interpelle en leur disant comme il faut que je fais je suis plasticien. Donc, j'ai travaillé un peu en art visuel. Ça m'active quand je travaille au niveau de la plasticité, quand j'amène. C'est pas nécessaire de dire à un acteur, quand on amène un traîneau dans la salle de répétition, comment il doit le faire, puisque l'objet lui-même attire les propres gestes. Pousser, tirer, renverser, relever, soulever, descendre. Et on peut même éventuellement le brûler. Je veux dire, tout le vocabulaire qui vient autour d'un traîneau de bois, une luge qu'on tire, qu'on apporte au travail, on n'a pas besoin d'en parler, il va se faire tout seul. Et donc, il y a toutes sortes de choses comme ça, il y a des objets, il y a des costumes, il y a des maquillages, il y a le fait des panneaux, ben forcément, il va y avoir des glissements de panneaux, donc forcément des corps qui vont se déplacer. Il y a tout un appareillage, donc instrumentaliser l'acteur pour le faire dépasser dans l'idée d'être celui qui est porteur d'un personnage. Je veux qu'il soit porteur d'un temps, je veux qu'il soit porteur d'un espace. Et ça, c'est très complexe. C'est plus facile de travailler avec les performeurs parce que, par exemple, les performeurs sont vraiment décoincés au niveau de la robe du personnage. Et en somme, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille encore très, très fort pour... C'est comme un tableau. C'est-à-dire que je me préoccupe davantage à la matière que je vais avoir, la couleur, le format, et après va venir le motif. Et ce n'est pas le motif au départ.
Ouais. C'est intéressant, ça, le rapport avec l'acteur. Puis peut-être ça revient aussi au sujet de, peut-être qui nous préoccupe ici, là, de l'intimité et puis de cette approche du jeu qui, moi, ça m'irrite parfois. Il y a une sorte de... Dans les écoles de théâtre, on forme beaucoup les acteurs en les... comment dire? En mettant beaucoup en soulignant l'importance des émotions. Et je trouve que c'est extrêmement surfait. Et ça devient que les acteurs deviennent comme obsédés par cette idée de qu'il faut ressentir quelque chose. Et moi, je sais pas nécessairement, on va ressentir quelque chose, c'est inévitable, mais il ne faut pas ressentir quelque chose. On peut très bien être sur une scène et ne rien ressentir, mais transmettre une émotion très forte. Et il y a une sorte de truc très confus dans la relation quand on est acteur, notre relation avec le jeu. Parce que je pense que c'est peut-être nécessaire dans la formation. Je suis pas pédagogue, je suis pas une experte dans ce domaine-là, mais c'est probablement nécessaire de faire appel à ça, aux émotions, et puis à faire en sorte, parfois il y a cette expression qui est souvent utilisée, on dit que les acteurs sont des gymnastes de l'émotion. C'est peut-être une vieille phrase qui est plus nécessairement pertinente aujourd'hui. Je trouve que ça crée parfois des acteurs qui sont un peu infirmes, parce qu'ils reproduisent une image de l'émotion. Parce que comme ce que tu dis, moi, ça m'interpelle beaucoup, ça, par exemple, que tu dis, je dois boire de l'eau, qu'est-ce que je dois ressentir en buvant l'eau dans telle circonstance, je sais pas trop, mais on le sait pas. Hein, parce que de toute manière, quand on joue, on invente quelque chose et on ne reproduit pas quelque chose. C'est comme quand on joue, les gens parfois posent la question, comment vous faites pour inventer un personnage ou pour interpréter un personnage, par exemple pour interpréter, je sais pas moi, j'ai joué dernièrement dans un texte japonais comme actrice de Yasushi Inoue où je faisais des rôles de trois femmes japonaises très différentes les unes des autres. On m'a dit, comment vous faites pour comprendre et pour interpréter? Ben, je dis, je le comprends pas et je ne l'interprète pas, je l'invente. Et donc cette femme japonaise que je joue, elle a existé dans l'imaginaire d'un écrivain, mais c'est pas moi. Elle n'est pas dans la réalité. Et moi, j'invente cette femme qui est plausible parce qu'on est tous des êtres uniques. Donc, c'est très bizarre pour moi, cette obsession d'essayer de ressentir la chose en la faisant. C'est comme tu le mentionnes, ben, t'as un objet avec toi ou t'as une couleur derrière toi ou une musique. Déjà, ça te transporte. L'acteur, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire que seulement d'évoluer là-dedans puis d'être dans le présent. Et je trouve que C'est beau quand on voit des spectacles où cette qualité de jeu-là est présente. Et curieusement, je trouve qu'on le voit de plus en plus dans les pièces de danse, par exemple, ou dans les performances, ou parfois c'est des musiciens. Je trouve que dans le monde de la musique, les gens sont de plus en plus fantaisistes et s'expriment de plus en plus d'une manière particulière. Et souvent, on va voir des spectacles de musique. Les gens, ils sont très audacieux. Ils ont une sorte de liberté par rapport à la manière de s'exprimer, de se mettre en scène, et une sorte de liberté, de sentiment de liberté qui nous donne une impression de liberté qu'on ressent malheureusement pas assez souvent au théâtre, moi je trouve. J'aime bien, c'est pour ça que c'est important puis intéressant aussi, comme on le disait tantôt, Martin. Par exemple, cette demande de Louis Néguin, je l'ai invité pour ce qu'il était aussi. Et simplement de le mettre sur scène et de le faire voyager à travers sa proposition, déjà, c'est quelque chose. Lui, probablement, il ressent des émotions qui sont très personnelles à lui. Et j'ai pas besoin, moi, de les comprendre ou de savoir à quoi il pense quand il le fait.
Ouais. Mais vous avez voyagé beaucoup comme créateur. Est-ce que le corps de l'acteur que vous décrivez actuellement, est-ce que c'est caractéristique d'un acteur nord-américain ou bien c'est des choses que vous voyez un peu partout, des acteurs qui sont pris avec leur propre égo, des questions inutiles qui alourdissent, ou bien c'est une question de formation typiquement nord-américaine de l'acteur?
Je dirais pas que c'est typiquement nord-américain, mais peut-être que c'est originalement typiquement nord-américain, mais que comme à cause des véhicules comme le cinéma ou tout ça, ça s'est répandu beaucoup à travers le monde. Je pense que c'est devenu pas nécessairement universel. Je pense qu'il y a des endroits où... C'est peut-être pas une question de territoire ou de nationalité. Je pense... C'est peut-être une question de où on se trouve personnellement en tant qu'artiste, dans quel territoire on se développe, plus peut-être que la nationalité ou tout ça. Peut-être oui, que à cause justement de maintenant que toute information est accessible, qu'il y a ces informations se répandent. Je pense que ça va faire un peu comme n'importe quoi. Quand on voyage, on va dans un pays exotique et puis qu'on arrive à un coin de rue, on a l'impression qu'on pourrait être n'importe où parce que c'est les mêmes restaurants, parce que c'est les mêmes de la même manière. Ces connaissances-là ou ces croyances-là se transmettent partout.
Mais moi, je dois dire quand même que le travail que j'ai quand j'ai entamé avec les acteurs dans la ville de Québec, se sont investis d'une façon formidable et ils ont en même temps essayé de chercher avec moi tout ce que je suis en train de dire. C'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé encore les bonnes réponses. La réponse, par exemple, que j'avais à leur dire, c'était être attentif. Alors, si on est attentif à prendre une bouteille d'eau et à la boire, ça suffit. L'attention a déjà une... Je crois que ça se ressent, quelqu'un qui est attentif. Quelqu'un qui ne l'est pas, ça se voit. Et si quelqu'un est attentif à la scène et qui fait, peu importe l'acte et de ce qu'il a à dire, il est attentif là, il est présent. C'est l'endroit où on a trouvé un territoire commun. Mais il reste le travail énorme derrière à faire, que je vois bien, comme je veux pas avoir d'autorité sur eux, naturellement, mais que je...
Je comprends pas quand tu dis ça.
Ben, je veux pas avoir d'autorité parce que c'est une position...
En même temps, c'est toi qui suscites quelque chose.
Oui.
Et tu es à l'origine de quelque chose.
Oui.
que toi connais.
Oui.
Ou pressens.
Mmh.
Ou...
Oui, mais c'est que je veux pas avoir à leur je veux pas avoir leur dire et imposer quelque chose. J'aimerais que ça naisse de leur propre attention, de leur propre énergie à l'intérieur de l'objet qu'on présente. Mm-hmm. Et je faisais une analogie, mais dans la même manière que quand tu élèves ou que tu vis ou que tu partages ta vie avec tes enfants, avoir de l'autorité sur tes enfants ou d'avoir de l'autorité sur tes acteurs, c'est la même chose. Il y a un endroit dans ma tête où je me dis, il y a un truc que je j'aime pas avoir d'autorité sur l'autre, mais j'aimerais lui faire participer à un endroit où j'aimerais l'amener puis là, t'es proche. OK, ben là, la prochaine étape, on va y arriver. Mais par à coup, on va arriver à approfondir ce lien intime et puissant, parce que si ça vient profondément de lui. Alors, un jour, je suis monté sur la scène, j'ai dit, pourrais-tu sortir en levant les bras, faire comme ça? L'acteur l'a refait. J'ai dit, non, oublie ça, je ne veux plus jamais revoir ce geste-là. Parce qu'en fait, je ne veux jamais dire quoi que ce soit de, oui, à peu près, va par là-bas, va à peu près là, ou son contraire. Alors, chaque fois, quand je leur dis, on fait une scène, c'est ça, c'est très bien. Mais ça pourrait être aussi son contraire.
Ouais.
Et cette lien-là. Et donc, pour répondre à ta question sur le voyagement, quand je suis allé en Europe, surtout dans le côté francophone, parce que malheureusement, je ne parle que le français. Donc, du côté francophone, la majeure partie des gens, les jeunes que j'ai rencontrés, sont encore perclus énormément de le personnage, la situation, le jeu. Et c'est très difficile de les amener ailleurs. Et parfois, ils sont un peu largués quand je commence à parler. Et que là, parfois, il faut que je leur dise tout le temps, ce n'est pas ésotérique ce que je vous raconte. On est dans l'ordre du comment on fait pour trouver l'invisibilité entre ce que vous êtes là corporellement vrai, mais vous êtes dans une zone totalement de fiction. Et cette fiction-là, vous participez presque à un rêve. Mmh. Quand on est assis dans une salle de théâtre, c'est comme quand on regarde nos rêves assis, mais tout d'un coup, on ouvre les rideaux, et tout d'un coup, il s'agit quelque chose devant nous. Et c'est là aussi, on peut aller du côté des cellules miroirs, les neurones miroirs, qui fait que ce qui se joue devant nous, vous savez un peu peut-être pour les neurones miroirs, donc dans les années 80, des neurologues ont découvert que le « je » n'existe pas, mais on est toujours en nous, parce que ce que vous faites, c'est comme si moi, mon cerveau l'interprète comme si c'était aussi moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation entre un vécu. Par exemple, le cerveau ne fait pas de distinction. Si je bois de l'eau devant vous, ne fait pas de distinction. Vous venez de boire de l'eau. Votre corps ne l'a pas bu, mais votre cerveau, c'est comme si ça brevait des images. Il peut avoir le goût de boire du café parce qu'il voit l'autre, mais pas parce que ça... C'est pas aussi des conditionnements, mais c'est aussi grâce aux cellules... c'est pour ça que le théâtre fonctionne aussi... Peter Brook s'est emparé de ça en disant voilà pourquoi le théâtre existe. Parce que quand on se voit en réalité, c'est réellement parce que c'est nous-mêmes qui se voyons à l'intérieur. Et qui correspond à ce que je pense du théâtre, c'est que ce qui se déroule là, sur scène, peu importe tous les éléments qu'on met ensemble, ne convergent que par un petit entonnoir qui rentre et qui vit avec le spectateur. Donc, on est continuellement en dialogue avec le spectateur. Et ça, c'est une zone d'introspection d'espace et de temps et le jeu des acteurs.
J'ai lu à quelque part, Daniel, que tu cherchais une écriture scénique qui correspond au 21e siècle. J'aimerais que tu me parles un peu de quoi notre siècle a-t-il besoin. Le 19e siècle, bon, les Grecs avaient besoin d'un type de théâtre. Le 19e siècle a créé un théâtre qui correspondait à son époque ou qui voulait faire avancer son époque. On a eu, de 1950 à 2000, je pense, un théâtre qui a évolué énormément. En quoi, depuis 2000 jusqu'à maintenant et dans les années futures, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut ne plus faire? En fait, parle-moi un peu de ça, parce que ça m'intéresse. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah oui, c'est super ». Mais en même temps, je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
Ouais, c'est du pain sur la planche parce que, je dirais, mais c'est en écho même au travail de Marie, c'est d'ouvrir des pages dans notre imaginaire en tant que spectateur quand on le regarde, mais tout n'est pas dit, tout n'est pas fabriqué et on participe à un dialogue continuel. Et donc, ce n'est pas l'autorité d'un texte. Hein, j'en ai écrit des textes comme ça qui commencent, je vais encore en écrire, pardon, mais parce que parallèlement, c'est comme faire deux choses, c'est faire de la recherche. Ça demande beaucoup de risques et si je ne fais que de la recherche, il faudrait que je sois bien financé. Parce que c'est vraiment des risques. Quand j'ai fait la trilogie des flous, quand tu travailles pendant un an sur 1000 anonymes et que tu gagnes 3 pinottes pour de vrai, 3 pinottes, quand tu fais la trilogie des flous qui vient à peu près 50 personnes dans ta salle, c'est des grands risques pour nous. Donc, il faut qu'on fasse une part de recherche, mais de l'autre part, des textes, ou en tout cas dans ma démarche, parce que c'est ce qui me fait vivre, mes droits d'auteur. Donc, oui, je vais continuer à interroger le texte à l'intérieur de ce jeu-là que je vous parle des acteurs. Mais de l'autre côté, formellement, il y a quelque chose que je veux chercher qui est de cet ordre-là, de la porosité dans le texte, qui fait que, qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'avec un son, un objet, un mot, sur scène, fabriqué, que tout d'un coup, ça entre dans le spectateur et tout d'un coup, il y a de l'espace qui se crée. Mm-hmm. Mettons un bloc de glace, une chandelle et le mot Inuit, la nuit inouïe. Et que tout d'un coup, on voit une manipulation autour d'un bloc de glace, nuit inouïe. Et ces mots qui peuvent venir, qui tout d'un coup, c'est de la poésie, on peut dire, mais c'est surtout que ça n'a pas d'autorité. De dire ça, ça raconte pas un personnage, ça raconte de l'espace, ça raconte de l'être, ça raconte de nous qui voyageons. Et c'est comme si on permettait au spectateur aussi de voyager avec nous, mais de lui laisser les portes les plus grandes ouvertes. Mais comment écrire pour que tout ça se tienne? Ça, c'est un autre, c'est toute l'autre finesse qu'il faut qu'on arrive à trouver dans. Et ça doit se trouver certainement dans des structures non vues de la narration. Et là, c'est un projet de recherche que je veux faire pour les 10 prochaines années. Alors, à 40 ans, j'ai passé à la mise en scène. Et là, je suis à l'aube de mes 50. Et là, jusqu'à mes 60, je veux travailler sur la neurologie avec des neurologues pour trouver une zone de la non-vue du récit. C'est-à-dire que le récit propre, Goethe, Grémas et compagnie ont fait des analyses assez extraordinaires sur comment étaient fabriqués les contes. Il s'agit qu'on commence à raconter un homme, une femme, une voiture, que tout d'un coup un récit peut se faire. Il y a des films qui se sont faits là-dessus. Comment on pourrait, nous, dans l'évolution, trouver une manière de raconter qui soit tout ouvert, mais qui ne procède pas par des structures vues, connues, des schémas connus, mais qui nous permet d'être associés ensemble en tant qu'humains dans une salle de représentation, où tout d'un coup, ensemble, on fait zone commune. Comme si on rêvait ensemble et qu'on comprenait. Et peut-être que les poètes Tang avaient fait des expériences formidables dans l'écriture. Ils avaient retiré, comme d'ailleurs c'était présent dans l'écriture chez les animistes, ils étaient toujours avec des verbes à l'infinitif. Imaginez que l'on se parle toujours à l'infinitif. Il n'y a plus d'imparfait et plus de futur. Ça veut dire qu'on abolit tout le temps et que quelqu'un qui est mort il y a 10 ans peut être aussi présent dans l'esprit de quelqu'un et de parler de lui à l'infinitif. Et ça, c'est une expérience de les poètes Tang, c'est François Chang qui en a parlé, c'est magnifique. La structure de leur imaginaire laissait tout à fait, tu vois l'image sans la saisir. C'est une expérience magnifique. Est-ce que, sans te lancer une fleur qui... c'est un peu de ce que tu es en train de faire. C'est cette ouverture qui fait que tout d'un coup, tu rentres, tu ressors, mais ça t'amène à composer une chose. Mais il faut travailler avec toi. On est en travail, on est en poétisation avec toi.
Ça m'inspire beaucoup, cette idée-là d'abolir la temporalité dans le langage. Je trouve ça extrêmement beau. Je connaissais pas les choses dont tu fais mention. Mais c'est très beau aussi les exemples que tu donnes, par exemple, inouï, cette espèce de glissement dans le langage qui est comment dire, c'est un peu faire l'école buissonnière du règlement. Je pense, des fois, quand on parle, je comprends bien, tu sais, quand Martin, tu demandais, quand tu parles d'autorité, moi, je comprends bien qu'on ne veuille pas avoir de l'autorité sur les gens qu'on dirige ou qu'on invite à travailler avec nous. Une des raisons, moi, pour laquelle je suis sensible à ça, c'est que, puis tu as donné l'exemple qui m'a bien fait rire, que tu vas voir l'acteur puis tu dis, monte tes bras comme ça, il le fait puis c'est pas bon. C'est que dans ton esprit, tu as cette image-là, mais quand la résolution va se produire, ça sera pas ce geste-là. Ça va être quelque chose que tu ne connais pas. Et si tu imposes un chemin pour trouver la solution que tu as vue dans ton esprit, tu vas arriver là. Et c'est une chute, c'est pas une ouverture. Et si, par contre, tu invites la personne qui est devant toi, avec laquelle tu travailles, à trouver... Tu vas pas te priver des qualités de cette personne-là. Tu vas profiter des qualités de cette personne-là, qui va amener ton langage ailleurs, probablement plus loin. Je pense que tu parles de cette idée de théâtre du 21e siècle. On parle de ça. Moi, j'ai l'impression parfois que, surtout en ce qui concerne le théâtre, peut-être qu'une étape à franchir ou un moment à traverser, ce sera d'accepter de se désorganiser. Je trouve que le théâtre est trop organisé. Et je pense que c'est une chose importante que d'accepter de défaire les mécaniques qu'on nous a si bien enseignées que maintenant, on a même parfois à lutter contre cette pulsion qu'on a en nous de faire les choses correctement, parce qu'on est constamment jugé de toutes sortes de manières, que ce soit par la critique ou par les spectateurs ou même par nous-mêmes ou par les impératifs de la rentabilité, d'attirer des gens et tout ça. Tout à coup, on entre dans ce système-là qui nous donne des coups quand on fait pas la bonne chose, quand on réussit pas. Et c'est certain que c'est difficile parce qu'il faut s'entêter à être révolutionnaire. Il faut s'entêter à essayer de créer des révolutions, peu importe l'ampleur des révolutions, hein, c'est peut-être tout petit, mais il faut avoir le courage de continuer malgré tout et de découvrir quelque chose qu'on connaît pas. Sinon, on devient des... C'est drôle, je suis très contente parce que je le ressens de moins en moins, probablement en vieillissant. On découvre en vieillissant, étonnamment, on n'y croit pas quand on est plus jeune, parce qu'il y a des gens plus jeunes ici, on n'y croit pas quand on est plus jeune, mais en vieillissant, on comprend des choses. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas compris. Puis j'ose espérer que ça va continuer. Mais quand j'étais toute jeune, je me souviens que quand j'écrivais, j'avais toujours l'impression d'avoir derrière moi quelqu'un qui m'observait et qui jugeait. Et cette impression m'empêchait d'écrire ce que j'avais le désir d'écrire, comme si j'étais une élève surveillée par un professeur qui, en fait, n'existait pas. Et c'est peut-être un rapport à... Je sais pas, on est créateur quand on est artiste, et peut-être que d'une certaine manière, on le devient de plus en plus. Donc, on cesse de plus en plus d'être une créature pour devenir de plus en plus un créateur. Et ça nous fait pénétrer dans des zones de liberté, peut-être.
Mais formellement, on a le souhait, Antoine Conjard et moi, dans les ateliers Arts Sciences, ma compagnie s'appelle aussi Atelier Arts Sciences, et j'ai rencontré Antoine à Avignon au moment où je présentais Kiwi, et lui parlant de mes intérêts sur les sciences, bien que je connaisse rien dans les sciences, mais je sais qu'on peut passer par ce chemin où des gens travaillent déjà sur des problématiques et des réseaux de pensée qui ne sont pas les mêmes que dans le milieu des arts, et qui pourraient nous amener, si c'est possible, j'aimerais bien arriver à des résultats qui puissent faire évoluer notre réflexion sur l'écriture et comment on pourrait pousser encore plus loin notre rapport à cet espace mental. Donc, dans les prochaines années, on va travailler ensemble avec des neurologues et peut-être des anthropologues.
J'aurais envie d'ouvrir des questions à la salle, des commentaires pour les 15 prochaines minutes, pour les 15 dernières minutes. Donc, si vous voulez poser des questions à Marie, à Daniel, vous êtes les bienvenus.
Karen,
on va vous passer un micro pour que tout le monde entende bien la question.
Bonjour. Vous parlez à plusieurs moments de différence entre les performeurs et les acteurs, en fait, au niveau de la manière dont vous travaillez avec. En ce moment, il y a comme une espèce de mélange des arts et des formes, et il y a beaucoup de spectacles de théâtre qui utilisent des performeurs ou de... Enfin, quelle est pour vous
cette différence?
Ouais, cette différence. Comment vous établissez ça, en fait, la différence entre un acteur et un performeur, un spectacle de performance, un spectacle de théâtre?
Peut-être quand j'entends ou quand j'utilise le mot acteur là, de la manière dont je l'utilisais tout à l'heure, peut-être que j'imagine un acteur vraiment dans le sens très classique du terme, c'est-à-dire un acteur qui joue au théâtre, qui interprète des personnages ou qui joue au cinéma et qui fait un peu la même chose, donc qui a appris un métier, qui qui fait en sorte que son, tout son corps, ses sentiments, son être sont au service de voués à reproduire quelque chose qui existe. Et peut-être c'est la nuance que je fais qui est peut-être pas nécessairement juste. Quand je vois performeurs, souvent c'est des gens qui n'ont pas de formation d'acteur, qui n'ont pas cette formation ou cette déformation, et donc qui arrivent comme des êtres qui sont affranchis de tous ces codes qu'on apprend quand on reçoit une formation dans une école, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Moi je suis ravie d'être allée à l'école de théâtre, ça m'a sauvé la vie. C'est seulement, je pense probablement comme toutes les formations, toutes les éducations qu'on reçoit, à un moment donné, il faut digérer ce qu'on a appris, puis le recracher d'une autre manière, et puis s'affranchir des choses qu'on a apprises, puis pas de pas de pas comprendre ça comme étant des dogmes ou des règlements, ouais.
Mais la Marie Brassard qui fait moi qui me parle à moi-même et la Marie Brassard qui joue, disons, dans La Loi du cochon, est-ce que c'est deux actrices complètement différentes ou deux personnes complètement différentes?
Non, c'est pas deux personnes complètement différentes, mais si, par exemple, je joue dans un film ou dans un théâtre, j'essaie le plus possible, je deviens l'esclave du metteur en scène. Ben, l'esclave, je suis créative aussi. C'est-à-dire, je propose des choses, mais je me mets au service de l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Souvent, le résultat ou la proposition, elle est jouée comme je veux la jouer, par exemple. Parce que des fois, j'ai une tête de cochon, je ne vais pas nécessairement me faire... Sauf que je ne vais pas nécessairement dans la direction dans laquelle moi, je serais allée. Donc, c'est certain, si je suis engagée comme actrice, je considère vraiment que je suis là pour servir la personne qui m'engage. Et la relation, elle diffère, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui demandent qu'on amène beaucoup d'input, qu'on fasse beaucoup de propositions, et je suis toujours très heureuse d'en faire. Et il y en a d'autres, par contre, qu'on sent qu'ils ont vraiment une vision précise et qu'ils veulent. Et je respecte ça énormément aussi. J'aime ça beaucoup, être comme une esclave. Je trouve ça intéressant aussi. On trouve toujours un territoire dans lequel on peut être créatif, peu importe le contexte. Fondamentalement, c'est la même personne, mais le résultat, sans doute, diffère. Ouais.
Pour moi, souvent, un performeur va s'instrumentaliser. C'est-à-dire que quand on regarde une performance, il va avoir préparé des actions. Ces actions sont A, B, C, qui l'amènent à un point culminant. Tout cet appareillage qui va mettre devant le spectateur ou les gens qui vont l'entourer, et souvent aussi dans une zone qui n'est pas théâtrale, donc une zone publique ou une galerie d'art, et il va donc porter des actes comme s'il était un actant. Il est le porteur de gestes, de mots qui va poétiser ou raconter, dénoncer, fabriquer quelque chose sous nos yeux où on est obligé de composer. Comme quand on regarde un poème qui n'est pas évident au point de départ, on le décortique, on le travaille, puis là tout d'un coup tu dis « Ah, c'est limpide, c'est clair ». Mais à première lecture, c'est pas très clair. Et je crois que ça, c'est une chose qui est fondamentale par rapport à l'acteur qui joue. Et c'est cette nuance-là, peut-être, qu'il faut arriver à travailler avec l'acteur, c'est justement comment boire sans jouer. Une fois, on avait fait vous pouvez le faire en théâtre, c'est un test absolument génial. Dans un atelier, j'avais juste montré comment l'acteur apparaît. On fait un drap, l'acteur est derrière, les autres le regardent, et il ne sait pas à quel moment le drap va tomber. Et quand le drap tombe, on voit la fraction de seconde où la personne se voit, se conscientise qu'il était derrière et tout d'un coup, il passe devant. Et ça se voit qu'il joue. C'est ce petit élément-là, mais ça, c'était une découverte absolument géniale. J'ai dit, comment faire pour sortir derrière le rideau sans jouer? Être juste être. Et ça, là, pour un acteur, c'est énorme. C'est énorme à trouver. Et l'autre chose qui est énorme à trouver, c'est la mémoire. Il y a une chose qui est incroyable en général chez l'acteur, c'est que sa mémoire est est indestructible. Au moment où il a appris un texte avec une rythmie précise, lui faire changer cette rythmie-là est impossible. Et on avait fait des tests en France avec des acteurs sur des textes de Coltès. Et le premier jour, il dit le texte, on l'enregistre. Bra, 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 bra. On fait des exercices pendant 12 jours. Le corps, à l'envers, la tête. Il chantait des oreilles, du cul, du nez, de partout. Puis on lui dit à un moment donné, dis-moi le texte maintenant. Bra, 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 en bougeant. Bra, 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 mais en bougeant. Après, on s'est dit, mais on a un sacré problème. On n'a pas de mobilité. Ça, c'est un mot qui me vient d'Alain Françon. La mobilité. Et donc, le performeur, comme souvent il joue une seule fois, il fait souvent une action une seule fois, il n'est pas dans la mémoire. Il est simplement dans un parcours à franchir, et après c'est terminé. Chez l'acteur, c'est toute l'autre différence, sa mémoire et son apparition au jeu.
À ce niveau-là, je pense que le corps du danseur est très inspirant parce que il n'est pas dans le mensonge. Je veux dire, tu es dans le moment présent et tu ne te préoccupes que d'habiter ce que tu as habité. Et après ça, il y a tout le paysage intérieur qui fait en sorte que tu es soit un très grand danseur ou un danseur exécutant. Et je pense que comme toute une grande leçon au niveau du paysage intérieur de l'acteur. Et c'est ça, je pense, qui est le plus difficile à susciter chez les acteurs, c'est le paysage intérieur. Et c'est là que des univers comme les vôtres, Daniel, comment faire en sorte qu'ils visitent ton paysage intérieur et cheminent dedans et que toi, tu t'y reconnaisses?
C'est la page à ouvrir pour mes prochains projets.
c'est un super défi.
Oui.
Daniel, on parlait d'autorité ou de la volonté de ne pas l'exercer ou de ne pas trop l'exercer sur l'acteur ou le performeur. Est-ce qu'avec les concepteurs qui t'entourent, c'est la même liberté que tu laisses? Parce que j'ai vu Milan Anim hier soir, puis c'est plein de choix là, au niveau de l'éclairage, de la scéno. Est-ce qu'au moment de l'écriture, déjà, il y a quelque chose il y a un embryon d'espace dans ta tête?
Oui, il y a une mise. Hein. Je convoque les gens pour travailler sur une mise de jeu. Pour l'espace, c'est moi qui l'avais fabriqué, mais je l'ai avec des gens. On a fait. Mais l'objet scénique était à partir de ma conception. Et au niveau sonore, j'ai dit, je veux deux tables tournantes et des disques qui tournent lentement au 16e tour. Donc, on a trouvé des tables tournantes qui vouraient lentement. Et puis, on a mis des disques québécois. Je voulais des vieux disques québécois et puis essayer. Donc, ce que vous entendiez hier, en fait, c'était live parce que là, on le voyait pas parce que j'arrive pas à l'intégrer encore sur la scène. Mais c'est vraiment l'aiguille qui tombe et qui redescend sur la platine. Mais à l'intérieur, je dialogue avec le musicien Stéphane Caron ou avec Lionel Arnoul pour les images. Puis là, on se pose des questions et on travaille. Et je laisse entrer et sortir les choses. Naturellement, c'est leur univers qui transpire à l'intérieur de ça. Mais comme j'ai l'oreille très sensible par rapport à l'objet théâtral, parfois je dis ça marche pas, mais je sais pas comment le dire. Puis là, on cherche et ça prend du temps. Mais je laisse les pages. Tous les artistes travaillaient. Et j'aurais aimé, par exemple, dans l'éclairage, parce que je voulais faire ça avec des chandelles. Naturellement, c'est vraiment amateur de ma part d'avoir pensé de faire un spectacle avec des chandelles et du carton. Mais voyez, moi, c'est vraiment parce que je commence. Alors, donc, j'ai, en cours de route, abandonné l'idée. Et l'éclairage est arrivé 3 semaines avant et je hais l'éclairage au théâtre. L'éclairage au plafond, c'est une chose que je ne supporte pas. Pour les autres spectacles, oui, mais pour mes affaires à moi, non. Alors donc, je me suis dit, bon, comme je ne peux pas utiliser de chandelle, je vais utiliser le minimum, le côté et devant. Et c'est la seule chose que je vais avoir. Alors, j'ai demandé à un éclairagiste de Québec, Jeff Labbé, de venir positionner l'éclairage. Et après, on a bidouillé vraiment l'éclairage. Mais parce que je ne voulais pas que ça se fasse une conception trop rude, trop dure pour laisser vivre l'objet. Je me suis égaré de ta question. Ah oui, je voulais juste ajouter sur. Il y avait une autre question aussi sur que Sloterdijk a apporté sur l'idée que sur l'idée de l'autorité. Mais je ne sais pas dans quel livre il en parle. Mais il dit qu'on a une dictature du récit sur les êtres et qu'il faut abolir ces espaces de récit pour trouver autre chose, parce que c'est comme ça qu'on arrive à dominer le monde et le marketing, par exemple, ou tout l'aspect du discours politique, etc., sont des narrations qui emprisonnent les êtres, les rend esclaves, tout l'esclavage autour. Donc, il faut trouver d'autres types de récits, d'autres manières de s'adresser aux gens.
Bien, Daniel Dany, Marie Brassard, merci beaucoup de pas être esclave, de chercher et de fouiller. Merci pour ces œuvres scéniques-là, théâtrales. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais bravo. Merci.
Merci.